Bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles sur 92.1 ou radiocampus.be pour ceux qui préfèrent le net. Alors on est mardi, il est midi et on va parler théâtre aujourd'hui. On va parler théâtre avec Frédéric Dussen qui est avec nous en studio. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et on va parler théâtre et anniversaire, un théâtre festif.
Oui.
Mais en tout cas une fête de cette compagnie qui a 30 ans.
Oui.
Qui a 30 ans, qui propose une nouvelle création pour fêter cet anniversaire, une création hybride qui mêle poésie, cirque, mouvement. Ce qui est un peu finalement le fil conducteur de cette compagnie qui est l'acteur et l'écrit, la parole et le geste, le corps. Et le texte, on va parcourir cette histoire et cette création ensemble. Mais c'est vraiment le fil rouge de cette compagnie née il y a 30 ans. On peut peut-être déjà commencer par vous, parce que c'est vous qui avez créé cette compagnie, Frédéric Dussen. Peut-être un petit peu vous présenter aux auditeuristes qui ne vous connaîtraient pas éventuellement.
Ben voilà, moi je suis de formation acteur, je suis metteur en scène. Et effectivement, je suis directeur artistique d'acteur et écrit et professeur à Art au Carré, qui est à l'École supérieure de théâtre de Mons. Et en fait, j'ai travaillé un peu partout. J'ai d'abord participé à un petit premier collectif de création qui s'appelait les Ateliers de l'Échange, jusqu'en 1996. Et là, on a échoué à obtenir une subvention de fonctionnement, et donc on a décidé tous ensemble de ne pas continuer, ensemble. C'est en faisant une fête d'ailleurs, il y a exactement 30 ans, où on avait aussi fait une création pour faire la fête. Et au moment même, j'ai rassemblé autour de moi les gens qui aussi bien voulaient retravailler avec moi dans le cadre de la compagnie sur les spectacles, sur le travail artistique. Et par ailleurs, comme j'étais assistant de Pierre Laroche au Conservatoire de Bruxelles qui partait à la pension, en fait, j'ai pris la responsabilité d'une classe à Mons, où il y a aussi des acteurs qui travaillaient dans la compagnie, qui donnaient cours dans cette classe. Et en fait, la compagnie a été une espèce de dialogue intergénérationnel entre ceux qui finissaient par avoir une certaine bouteille et puis les émergents qui arrivaient et qui nous rejoignaient dans les différents spectacles.
Donc c'est mêlé, en fait, cette compagnie, différentes énergies. L'énergie d'abord du corps et du mot et les énergies d'émergents et d'anciens.
Des émergences, des plus anciens, l'intergénérationnel, les genres, la diversité culturelle. Enfin, tout ça, ça a toujours été chez nous une espèce de... Voilà, de dialogue, de mélange, qui permettent, avec lequel on fait des formes, qui tentent de raconter la contradiction que représente le fait de vivre ensemble en société, quoi. Les difficultés que ça suppose, les conflits que ça suppose, et tout ça avec l'aide de poètes, de gens qui écrivent.
Et comment, la première création de l'acteur et l'écrit, c'était quoi? Enfin, le premier travail, la première... Donc, il y a cette scission, enfin, la fin de cette compagnie, puis les débuts de cette compagnie, l'acteur et l'écrit, qui est un conglomérat de plein d'énergie. Quel travail a été le premier? Est-ce que ça a tout de suite été un travail à mettre au plateau? Est-ce que ça a été d'abord un espace de résonance, de création, d'échange? Comment ça s'est passé?
On était dans l'urgence un peu, parce qu'en fait... On a espéré que les ateliers de l'échange obtenir cette stabilisation, donc on avait un projet en fait, on avait un projet sur le théâtre impossible de Lorca, le théâtre le plus intime, celui où il fait une espèce de coming out politique, mais aussi sexuel, personnel, sur trois pièces, qui s'appelait Le Public lorsque 5 ans sont passés et son titre. On avait prévu de faire ça aux ateliers de l'échange, évidemment. Quand on a décidé de se saborder nous-mêmes joyeusement, parce que c'était joyeux en fait, même si c'était douloureux, on a proposé à une série de gens qui voulaient travailler avec nous et qui n'avaient pas encore pu le faire, s'ils le voulaient, de participer à cette création. Et donc, on a réuni 26 personnes bénévoles qui ont travaillé pendant 3 semaines et on a monté le public au Théâtre de Poche pour une représentation le jour du sabordage de la compagnie, le 27 septembre 1996, fête de la communauté française, donc c'était un peu ironique. Et donc on a joué dans le Théâtre de Poche, sur le plateau du Théâtre de Poche, juste avant rénovation. Donc les 26 qui sautaient sur le plancher, on a cru qu'ils allaient détruire ce qui restait de l'ancien plancher. Et donc on a fait la fête aux poches, voilà, comme ça, qui fête par par ailleurs, c'est 75 ans cette année. Ouais. Et alors, la deuxième partie du diptyque, c'est l'acteur à l'écrit qui l'a complètement pris en charge donc, lorsque 5 ans sont passés. Donc, ça, c'est Projet Lorca qui a fait un peu le lien entre les ateliers de l'échange et l'acteur à l'écrit.
Et justement, j'avais envie de demander, quand, dans une compagnie comme ça, où finalement la parole est très importante, l'acteur, donc son corps est très important, mais la parole, comment on choisit les textes qu'on... Parce que vous ne travaillez que sur répertoire ou il y a aussi de l'écriture de plateau?
Il nous est arrivé de travailler sur l'écriture de plateau. Mais majoritairement, on travaille souvent avec la littérature. Il y a du répertoire, mais aussi des textes contemporains. La majorité des créations de la compagnie, c'est plutôt des textes contemporains. Qui sortent à peine de l'ordinateur. Hein. Donc, c'est pas des textes qu'on va chercher dans les librairies. On travaille avec les auteurs aussi, vivants, quoi. Mais on passe par le répertoire aussi. Voilà. L'idée, c'est que ce qu'on cherche toujours, c'est une matière qui permet donc de montrer ce conflit, ces conflits dans la société. Pas de manière, explicative ou même documentaire, mais plutôt d'en incarner la crise, voilà. Et les poèmes ou les grands drames, parfois les grands textes de répertoire, sont des machines à faire fonctionner le conflit symbolique, quoi. Et donc on s'en sert, mais aujourd'hui, on n'a jamais fait vraiment de reconstitution historique, on n'a jamais fait ça, c'est pas ça le travail. C'est plutôt des mots, quel que soit l'âge qu'ils ont, et des corps vivants au présent, et mettre ça ensemble et faire un spectacle. Bon, par exemple, l'année dernière, en avril, on a créé La Mouette. Bon, on est reparti d'une aventure sur Tchekhov où j'ai réinterrogé le texte. Mais enfin, ça part quand même d'un matériau qui vient de Tchekhov.
Mais le titre n'était pas La Mouette, si ?
Si, c'était La Mouette.
Le titre était La Mouette ?
C'était La Mouette, mais le titre en russe est ambigu parce que c'est peut-être une mouette, on ne sait pas, les deux sont possibles en titre, en russe. Mais nous, c'est bien La Mouette, parce que c'était effectivement La Mouette. La part de travail que nous on fait là-dedans, c'est de confronter ça avec nos corps qui vivent le présent d'aujourd'hui, quoi. Et donc c'est comme si des citoyens sortaient du gradin, montaient sur le plateau et commençaient à prendre en charge un texte beaucoup plus ancien, mais aujourd'hui.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des mouvements de texte.
Oui, oui. Le texte est un petit peu secoué quand même, il est un petit peu bousculé par ce travail-là. La recherche, c'est vraiment toujours une forme de se rapprocher le plus possible de ce qu'est la condition humaine, vécu au quotidien, voilà. Et donc, pour moi, l'acteur, il ressemble au spectateur. Il est tout près du spectateur. Il s'en détache à peine par la convention, par le rite. Et le spectacle, c'est moins une image qu'une espèce de fête, un rituel. Donc, très souvent, on change le dispositif scénique. On n'est pas toujours en frontalité. Quand on l'est, en général, on rentre dans la salle aussi bien qu'on est sur le plateau. Enfin, l'espace théâtral, pour nous, c'est jamais un espace pour faire des images. C'est un espace pour organiser un rapport le plus sensoriel possible, le plus sensible possible.
Et justement, comment ça se passe? Parce que vous dites souvent « nous », puisque c'est une compagnie.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent? Comment ça se passe? Donc, on a entendu qu'il y a eu les ateliers de l'échange, qu'il y avait certaines personnes de l'atelier de l'échange qui étaient là, puis il y avait des personnes de Bruxelles à l'époque. Maintenant, il y a des personnes de Mons qui viennent. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a un noyau dur? Est-ce que l'idée vient de vous uniquement quand il y a une nouvelle pièce qui se dessine, que vous cogitez d'une envie de travailler un texte comme La Mouette, par exemple? Que ça cogite, et puis qu'il y a deux, trois personnes qui, on se dit, vous vous dites, cette personne-là, je voudrais bien aller voir dans l'aventure, et puis ça s'agglomère. Comment ça se fait?
Il y a un noyau dur, hein, donc, notamment, je travaille pratiquement toujours, c'est une exception la création maintenant, j'expliquerai pourquoi après, mais je travaille toujours avec un noyau dur qui est de l'ordre de la scénographie, des costumes et de la lumière, c'est toujours les mêmes personnes, donc c'est toujours ensemble qu'on réfléchit. Chaque fois.
Et ce sera qui alors, si on peut les citer?
Donc c'est Renaud Kellemans qui fait mes éclairages depuis même les ateliers de l'échange, donc ça fait 35 ans. Vincent Bresmal, qui fait la scénographie, et Romain Dedoux, qui fait les costumes depuis une dizaine d'années maintenant, et qui est un ancien étudiant de l'école.
À Bruxelles.
De Mons. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est toujours d'abord à eux que je parle. Je dis, tiens, voilà, on pourrait travailler sur ça. Bon, comme on a un contrat, une convention sur plusieurs années avec la communauté française, on a aussi un projet à moyen terme. Par exemple, nous, pour les 5 ans à venir, on travaille sur les rapports entre la famille, ce qui se passe dans les familles, les conflits dans les familles, et les conflits dans la société. Comment est-ce que c'est analogue? Et donc, les pièces, en fait, on en parle depuis un certain temps, qui vont servir à ce projet-là. Donc le projet, il va parler de la famille et de la politique à partir des pièces. Donc il y a La Mouette, et puis maintenant il y a Signé à Existence. Voilà.
Qui est donc cette fameuse création de fête de, allez, voilà. des 30 ans.
Ben, ça, chronologiquement, on a fait les on a créé les premières planches à Namur d'Assigné à Existence il y a 2 ans, mais on le crée à Bruxelles maintenant, enfin, on le joue à Bruxelles maintenant. Mmh. Mais enfin voilà, ça rentre dans cette réflexion. Ici, on est plutôt sur un cri de révolte de la jeune génération par rapport aux aînés, quoi.
Et La Mouette, c'était quoi alors ?
La Mouette, c'est vraiment la famille. C'est vraiment non seulement la famille, mais en plus les barrières qui ne sont pas toujours complètement étanches entre le théâtre et la vie. Et la Mouette parle de gens de théâtre aussi. Donc il y avait des miroirs, de miroirs, de miroirs, de miroirs. Donc c'est le. C'est un peu le point de départ de cette réflexion. Donc les acteurs sont vraiment des acteurs sur le plateau. On a le personnage de La Mouette dit « Je suis actrice ». Quand elle dit ça, c'est vrai. Mm-hmm. C'est simplement vrai.
Oui.
Même si elle joue un rôle dans la pièce, mais elle dit « Je suis actrice ». Voilà. Donc La Mouette, il y a toutes les générations. Il y a 11 acteurs et actrices. On a voulu une famille multiculturelle. Voilà. Multigenré.
Ça, c'était en avril dernier, c'est ça, la création.
On l'a créé en avril dernier, oui. Et donc voilà, donc là, je leur ai proposé le projet sur 5 ans, quand même, à ce noyau dur. Et j'ai proposé à un noyau dur.
Donc sur la famille-société, hein, c'est ça, ce projet-là.
Et donc je viens de parler des concepteurs, mais j'ai aussi proposé à des acteurs, avec lesquels je travaille depuis longtemps, d'être le noyau dur de ces projets. Et d'être à chaque fois rejoint par des émergents. Donc jusqu'à la fin de notre convention, jusqu'au 5e projet, ben, y a des acteurs plus âgés qui vont se retrouver dans toutes les productions et qui vont être rejoints chaque fois par des émergents différents. Quoi, voilà. Donc le prochain projet, ce sera une adaptation de Visconti, d'un de vos derniers films de Visconti qui s'appelle Violence et Passion. Ben, y a le noyau dur de La Mouette plus âgé qui sera là, et qui sera rejoint par des émergents. Bon.
Alors, je voudrais faire une petite pause musicale d'abord, et puis je propose qu'on parle de quelque chose dont on parle peut-être moins. La semaine dernière, on en parlait ici parce qu'on parlait du festival à Liège Factory, avec des émergents justement, et on parlait diffusion, production. Ici, je pense que peut-être ce serait pertinent de parler de ce qu'est finalement les coulisses de programmation d'une compagnie comme ça, parce que vous parlez d'un programme sur 5 ans, peut-être parler de ça avant de parler vraiment de répertoire, de Pasolini évidemment, voilà. Mais je propose d'abord une petite pause musicale, et je peux pas m'empêcher de commencer par cette pause musicale que vous avez proposée de Claude Semal, de Petit Pays. Est-ce que vous pouvez introduire cette petite pause musicale?
Le Pays Petit, oui.
Oui, le Pays Petit, oui.
Oui, c'est une chanson sur la Belgique. La Belgique, c'est un animal étrange. C'est tout sauf une nation, c'est ça qui est magnifique. C'est un non-État, en fait. Mais c'est quand même un pays, c'est quand même quelque chose qu'on a dans le ventre, et qui ne se traduit pas par un État-nation très fort, puisqu'on doit s'engueuler entre néerlandophones, francophones, germanophones, wallons, bruxellois. Enfin, on n'arrête pas de se disputer. Et pourtant, il y a quelque chose qui dure, en fait. Et je crois que la chanson de Claude... je dirais après le plat pays de Brel, c'est vraiment une chanson qui mérite d'être entendue. C'est quelqu'un qu'on n'entend pas assez, je crois, Claude. Mm-hmm. Voilà.
Bon, on l'écoute tout de suite, oui. Le Pays Petit de Claude Semal.
C'est un pays petit aux frontières internes, où les douaniers pullulent à chaque carrefour, où les vessies des ports passent pour des lanternes, pendant que le dimanche, à la pointe du jour, les convoyeurs attendent. C'est un pays mouillé, perclus de pavés tristes, où la pluie des lundis nous rend les jours amers. C'est un cafard secret auquel nul ne résiste, quand sous le ciel réduit au niveau de la mer, les convoyeurs attendent. C'est un pays joyeux à la bouche gourmande, quand l'accordéon joue la rythmique du cœur, quand le ciel est flamand et la lune romande, loin des dancing disco ou sous les projecteurs, les convoyeurs attendent. C'est un pays marchand, ouvert les jours ouvrables, où l'Europe en chantier vient nicher ses squatters, dans les bureaux déserts de tours inhabitables, pendant qu'à chaque arrêt du tram 107 Quater, les convoyeurs attendent. C'est un pays doublé de régions transitoires, je dirais même plus que ce sont deux pays, tombés par accident dans un trou de l'histoire, et où depuis ce temps, entre Bonn et Paris, les convoyeurs attendent. C'est un pays debout que je porte en mon ventre, creusé par les couilleux, bâti par les maçons. Ce pays, mes amis, il faudra le prendre, et c'est ce pays-là qu'au seuil de leur maison, les convoyeurs attendent. Car nous n'attendrons pas qu'il neige des oranges, ou que l'ogre d'argent daigne enfin nous quitter, pour vivre dans les rues cette passion étrange qu'on appelle parfois simplement liberté à force de l'attendre. C'est un pays petit aux frontières internes, où les contrebandiers partagent leur tabac, autour des bras zéros quand l'aurore lanterne, et qu'on oublie la nuit en rêvant que là-bas les voyageurs s'envolent. Les voyageurs s'envolent. Les voyageurs s'envolent.
Voilà, c'était Le Pays Petit de Claude Semal. On est toujours en studio avec Frédéric Dussen pour parler notamment des 30 ans de l'acteur et l'écrit, de sa compagnie, l'acteur et l'écrit. On est toujours sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, sur le 92.1 si vous nous écoutez en direct, ou sur radiocampus.be si vous nous écoutez un peu plus tard. Et on est toujours mardi et on est toujours à midi. Un peu plus tard, à midi. Bien, Frédéric, on se disait juste avant la pause musicale, que parler un peu des coulisses de ce qui fait une compagnie, parce que ce qui fait une compagnie, c'est évidemment un geste, une envie, un ensemble de personnes, mais c'est aussi des soutiens, puisque on peut en parler, puisque ici, L'Acteur et l'Écrit est né de finalement la faillite, entre guillemets, des ateliers de l'échange, de cette envie, de ce besoin de subvention, on ne va pas se cacher, oui. qui sont nécessaires à. Enfin, c'est bien de faire des spectacles avec plein de bénévoles, mais ce n'est pas comme ça qu'on vit, hein. Pas encore. Et donc, L'Acteur et l'Écrit s'est créé et il y a une série de contrats-programmes qui, c'est comme ça qu'on appelle ce qui permet à une compagnie d'exister, de se lier à la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir suffisamment d'argent pour créer des spectacles. Est-ce qu'on peut un peu démêler pour les auditeuristes ce que c'est tout ça ?
Alors, ce qui est particulier avec une compagnie de création, c'est qu'elle manque de la maîtrise sur deux choses essentielles. Voilà, qui sont l'espace et le temps. Quand on dirige un théâtre, on a l'espace, et donc on peut gérer le temps. Les compagnies n'ont pas l'espace. Et donc, accueillir des spectateurs, ben, ça suppose de trouver un espace. Hein, Villard disait « je cherche un mur devant lequel jouer ». Mais on est tout le temps en recherche de partenaires institutionnels, ou non. Parce que ça peut se passer comme ça va se passer maintenant dans le spectacle qu'on fait cette semaine avec un partenaire un peu moins institutionnel, puisque c'est la compagnie des Nouveaux Disparus, donc on est sous leur chapiteau. Mais donc le travail d'une compagnie, c'est essentiellement de générer du désir auprès des partenaires.
Un peu comme le comédien ou la comédienne.
Bien sûr, c'est à tous les étages, pour qu'ensemble on porte des choses. Voilà, alors... Effectivement, si on essaye d'aller dans les coulisses pour nos auditeurs et auditrices, il y a les spectacles que tout le monde voit parce que c'est la manifestation publique, donc ça c'est assez évident. Enfin voilà, on joue, les gens viennent voir, les spectateurs identifient clairement qu'on travaille, mais par contre on travaille tout le reste du temps. Et c'est ça qui est le plus difficile à porter, et c'est là qu'intervient une forme de reconnaissance par la communauté française. Sur la durée, qui fait qu'on peut préparer les spectacles, qu'on peut justement réunir les désirs et les envies, trouver des partenaires institutionnels. Donc ça, c'est en termes de production pure, il y a tout un travail qui ne peut se faire que s'il y a une certaine forme de continuité, indépendamment des événements que sont les spectacles.
Donc ça veut dire que quand L'Acteur et l'Écrit est né, il y avait ce projet Lorca.
Ouais.
Il y a tout de suite eu un soutien pour ce projet.
Alors à ce moment-là, pas encore.
Pas encore.
Donc nous, on a été avec les ateliers de l'échange toute la durée de notre existence pendant 10 ans à l'aide au projet. Ça veut dire qu'on n'avait rien entre les projets.
Structurellement, et voilà.
Ça. Et ça veut dire que tout ce travail, où il s'agit simplement de rendre possible le projet, se faisait bénévolement. On était tous bénévoles. Voilà, bricolait avec le chômage, on faisait comme on pouvait. Enfin voilà. Aux limites de l'illégal, comme dirait Roland Deveres, auteur d'Assigné à existence, parce qu'on se débrouille, quoi. Mais ceci dit, la débrouille, malheureusement, ça continue encore, hein, on doit bien...
Oui, bricoler.
Mais la compagnie a été reconnue 2 ans après son...
Donc L'Acteur et l'Écrit.
Oui. Voilà.
Quand on dit reconnue, ça veut dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles dit, voilà, maintenant vous êtes reconnue comme compagnie, et on fait un contrat entre vous et nous...
Pour plusieurs années.
Pour plusieurs années.
Voilà, c'est ça. C'est pas tout à fait exact ce que je dis, parce qu'en fait, la reconnaissance peut aussi s'obtenir par un certain nombre de créations ponctuelles à l'aide au projet. Alors, on considère qu'on est reconnu, voilà, qu'on a une existence, mais ça veut pas encore dire qu'on a un soutien permanent. Mais le premier contrat programme de la compagnie, donc, il a lieu 2 ans après. Alors, c'est une aventure intéressante, parce que on est à Mons. J'ai fait venir avec moi Patrick Descamps, qui est un très grand acteur, qui est aujourd'hui plutôt au cinéma et à la télévision. Les gens l'ont identifié dans un village français, c'était un acteur assez important. Mais à l'époque, c'était beaucoup un acteur de théâtre. Et quand j'ai pris une classe en charge à Mons, j'ai demandé de venir avec moi. Et il y avait un collectif de création Mons, qui réunissait plusieurs, donc c'est une espèce de miroir pour moi des ateliers d'échange aussi, enfin voilà, qui réunissait plusieurs compagnies, avec des chefs de file, Jean-Claude Derrida, Barbara Bua, qui était ma collègue en phonétique au conservatoire et tout. Et on a commencé à rêver, on s'est dit, bon, ben, il y a une école d'art, il y a un centre culturel où ce collectif est en résidence, ben, on pourrait essayer de faire vivre ensemble une école d'art et le lieu de culture de la ville où elle est implantée, où cette école est implantée, quoi. C'est un peu des rêves en Belgique, parce que ça marche pas toujours, enfin, c'est pas facile. Mais on a proposé ça ensemble à la communauté française.
Donc, de...
On s'est rassemblés, Patrick m'a demandé de diriger ce qui est devenu à ce moment-là le collectif L'Acteur à l'écrit.
Ça a duré qui était trois... ce collectif qui était en résidence à...
Qui réunissait donc les compagnies qui étaient en résidence au centre culturel et ma compagnie. Ça a duré 3-4 ans. Parce qu'évidemment, on a des histoires beaucoup plus longues les uns et les autres, donc il y avait des choses qui devaient se continuer autrement. Mais enfin, ça, c'était l'élan de départ, et L'Acteur à l'écrit a continué après ça. Voilà. Mais c'était pour moi très important que pour les étudiants de Mons d'identifier un grand acteur montois. Patrick est montois de naissance. Et donc ça avait pour moi beaucoup d'importance de ne pas venir là comme un débarqué.
Que vous-même, vous êtes bruxellois.
Si je suis tout à fait... mes origines familiales, c'est plutôt Charleroi. Mais je vis à Bruxelles depuis que j'ai 20 ans. Voilà, donc ça fait 43 ans maintenant. Mais, et donc oui, je ne voulais pas débarquer tout seul comme ça, dans cette ville que je ne connaissais pas bien. Et donc Patrick était là, et il y a eu cette aventure. Et avec le centre culturel, quelque chose s'est passé quand même. Je veux dire, il y avait un démarrage. Et puis il y a eu une grosse opération, à un moment donné.
À Mons.
Politique, oui. Où il s'est agi de rassembler tout ce qu'il y avait de culturel, au moment notamment où on en... où Elio Di Rupo allait arriver comme bourgmestre. Et donc on a créé ce qu'on appelle le manège, qui a été une espèce de coupole qui a tout récupéré du centre culturel, du centre dramatique ennuyé où nous travaillons aussi, en les faisant disparaître là-dedans et qui nous a expulsés comme résidents. Voilà. Donc il y a aussi eu cette crise-là avec les institutions montoises.
Voilà. Et là, on est en...
Là, 2000... on est aux environs des années 2001-2002. Ouais. Tout à fait sûr des dates, mais c'est ça. Donc, alors là, évidemment, tout ce qu'on avait mis en place s'est un peu mis en crise, quoi. C'était tellement incroyable que le producteur exécutif des géants de la montagne qu'on joue à ce moment-là, donc le responsable des contrats, des assurances, enfin de tout le bazar, quoi. Mm-hmm. Nous, on coproduisait, mais tout d'un coup, disparaît. Donc la structure juridique disparaît. Donc on fait une reprise l'année suivante et on n'a pas de producteur délégué légal. Donc il y a eu des moments vertigineux, voilà. Bon. Mm-hmm. Puis bon, on s'est fait à l'idée que la ville ne voulait pas de ça. C'est une tendance qui est un tout petit peu générale en Fédération de Bruxelles, où les théâtres de création se transforment de plus en plus en lieu de diffusion.
Vous parlez du manège.
Oui, je parle du manège, mais en
qui est un agglomérat, mais pour parler très concrètement de votre histoire, donc qui était un agglomérat de lieux de création.
Oui, de compagnies de création.
Oui. De compagnies de création. Et qui est devenu effectivement plutôt un lieu...
Majoritairement de diffusion. Même s'ils coproduisent des spectacles, mais c'est de manière un peu plus distante. C'est quand même les compagnies qui portent aujourd'hui. C'est aussi ça la grande révolution qu'on a connue. Enfin, moi, j'ai connu ça sur toute la longueur de ma carrière. Mais non, mais on est passé d'un mode de production de spectacles où c'était les théâtres qui étaient producteurs, qui proposaient des choses et on allait travailler dans les théâtres, à une logique qui est celle d'aujourd'hui où ce sont les compagnies qui portent des projets, qui amènent dans les théâtres.
Ce qui fait... qu'un théâtre peut avoir une grille pluraliste s'il y a plusieurs compagnies, puisque les compagnies ont des identités propres.
Ça, c'est le côté intéressant.
Voilà.
Voilà. oui, c'est le côté vraiment intéressant. Le côté dangereux de ça, c'est le soutien s'éparpille, donc il est de moins en moins conséquent. Hein.
Le soutien des grandes maisons, enfin des maisons...
Ben oui, parce qu'ils ont moins d'argent à investir dans les coproductions. La production, c'est en fait, de nouveau, hein, c'est un peu simple ce que je vais dire, mais quand même, je vais le dire comme ça. La production, c'est tout ce qui précède ce que le spectateur voit. C'est-à-dire les répétitions, la préparation, toute la pré-production, toutes ces choses-là viennent avant les représentations que le spectateur identifie. C'est marrant parce que même les acteurs, parfois, n'identifient plus le travail qu'on fait en préparation.
Donc hein, même avant les répétitions.
Ben oui, et c'est comme si ils jouaient dans des théâtres, mais en fait les projets sont portés bien avant les théâtres et ils arrivent dans les théâtres et puis ils jouent dans les théâtres. Voilà, ça c'est le changement d'économie assez global de tout le secteur. On est vraiment passé à ça. Donc on a participé à la fondation de la CCTA, qui est l'organe qui représente la compagnie de théâtre pour adultes par rapport au ministère. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, on devait assumer de plus en plus de responsabilités sans augmentation de moyens comparables. Il fallait un peu se bagarrer pour... C'est toujours pas si confortable que ça, mais enfin, on va pas se plaindre non plus. Je veux dire, on a bien avancé. Mais c'est une révolution. Mais c'est sûr que le centre culturel, par contre, était impliqué dans toutes les dimensions de la création. Beaucoup plus fort, beaucoup plus... beaucoup plus près, et même le CDH avec qui j'ai travaillé, qui était une petite leçon de dramaturgie. Après, c'est devenu un parti politique, mais à l'époque, c'était pas ça. Et travailler avec nous, c'était une toute petite équipe qui n'avait pas de lieu fixe et qui donc soutenait les productions du Hainaut, quoi. Et donc, on travaillait de manière presque familiale. Mmh. Et tout d'un coup, ben, toute cette structure a dégringolé. Enfin, va dégringoler, non, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, t'es tout d'un coup absorbé.
Est absorbé, oui.
Absorbé par cette grosse structure. À ce moment-là, trois compagnies portées par des directeurs artistiques qui étaient pédagogues dans l'école, c'est-à-dire moi, Michael Delaunoy, qui est devenu après directeur de Rideau de Bruxelles, et Laurent Wanson, qui était beaucoup au National à l'époque. On avait dit qu'on voulait s'impliquer dans le Centre Dramatique Ennuyé. Et donc, on avait fait des propositions. Et c'est le jour où on devait être reçu par le conseil d'administration qu'on nous annonçait qu'on ne nous recevrait pas et qu'il y avait une coupole qui allait recouvrir toutes les institutions et que le CDH allait être aspiré coupole. Par cette coupole. Voilà. Donc, on est passé d'un mode plus artisanal de fonctionnement de production à quelque chose qui est un petit peu plus distant quand même.
Oui. Voilà. Mais l'acteur et l'écrit restent.
On a tenu le coup, ben oui. Bon,
et là, comment ?
Il faut avec le désir, hein. C'est le désir qui fait qu'on tient. On continue, quoi. On a eu des moments difficiles. On a repris la production exécutive des jeux en cours, évidemment. C'est arrivé à plusieurs reprises, hein, cette chose. On a eu d'autres accidents du même genre. Mmh. Tout d'un coup, il faut qu'on reprenne en main les choses parce que voilà.
Et quand vous dites on, c'est. Vous ?
L'administration de la compagnie, oui. Moi, et tous les concepteurs, tous les gens qui travaillent sur les spectacles, quoi. Oui, c'est un petit groupe mobile, un théâtral mobile, qui réagit, c'est joyeux, il ne faudrait pas que ça ait l'air tout d'un coup.
Non, mais c'est parce qu'on aborde une partie du travail qui est plus administrative, finalement.
Oui, il y a quelque chose de ça.
Il y a quelque chose d'administratif, de presque politique aussi, dans les mouvements, qui suit les mouvements économiques, politiques, etc.
On dépend, nous, évidemment, très fort, d'une part, de la subvention. Pourquoi ? Parce que si le spectateur devait payer relativement, pour aller au spectacle, le prix de tout le travail préparatoire qui arrive au spectacle, il ne pourrait pas l'assumer, c'est pas possible. Oui. C'est un art où les corps sont vraiment là, où les gens sont vraiment là, et les gens qui sont vraiment là, ben, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se nourrissent,
il faut les payer.
Les payer. Voilà, ça paraît naturel, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Et donc, c'est un art.
Pour faire une espèce de parallèle qui me vient là, comme ça, c'est on est habitué maintenant à payer très peu, par exemple, des vêtements. Oui. Très, 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 très peu. Oui. Pourtant, il y a des petites mains qui sont là et qui sont malheureusement payées très, 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 très peu. Et quand on doit payer un vêtement parce qu'il est produit, conçu ici, son juste prix, on n'est plus habitué. En fait, on n'est plus habitué au prix juste de quelque chose qui est travaillé artisanalement, ce qui est le propre, évidemment, de la création artistique.
C'est tout à fait clair. Et c'est là, pour moi, que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer d'intermédiaire entre les publics qui ont le droit d'avoir accès à la culture et les artistes. Donc nous, on a toujours essayé de faire un théâtre de service public. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le simple divertissement. On essaye quand même d'agiter des questions qui peuvent faire avancer la société. Enfin voilà, c'est quand même pour ça qu'on essaye de faire. Et c'est dans cette logique-là qu'on considère qu'il est légitime de demander un soutien d'un État démocratique, puisque le principe de la démocratie, enfin, tant que ça tient encore le coup, hein, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile.
Vous touchez du bois en parlant.
Un peu difficile, oui. Mais c'est quand même d'accueillir les contraires et d'essayer d'accepter la contradiction, la contestation, même la transgression. À partir de là, j'ai l'impression qu'on fait un travail quand même qui relève de l'ordre du service public, qui permet aux gens de se confronter à des questions et de prendre position eux-mêmes. C'est fondé par la Grèce antique pour pédagogiquement amener la démocratie.
Le théâtre.
Oui. Donc c'est un outil qui reste très lié au fonctionnement d'une société démocratique.
Oui. Quand on veut le couper, c'est généralement qu'il y a un petit problème dans la démocratie.
C'est pas très bon signe.
Mais donc ça veut dire que donc on en revient à la base, même si on s'est perdu dans les coulisses et dans l'explication qu'il y a des hauts et des bas dans tout ce travail en amont. Et donc l'importance de cette subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui lie, donc c'est un contrat qui lit, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des cycles, en fait, de plusieurs années qui se forment. Donc, il y a eu quoi comme cycle avant ce cycle qui mêle famille et société, ou qui met en regard famille et société?
C'est la première fois qu'on est aussi explicite sur la longueur de 5 ans.
D'accord.
Mais par contre, dans les anciens contrats-programmes, parce qu'on était au contrat-programme avant, maintenant on est au contrat de création.
Voilà. C'est quoi la différence?
C'est dans le nom. C'est-à-dire qu'en fait, on recentre nos missions sur la création. Et ça veut dire qu'on n'a plus certaines autres responsabilités qui, par exemple, reviennent à des structures, effectivement, qui ont un lieu, ou qui ont un public, ou qui ont... et qui ont d'autres charges à apporter, et qui alors ont un contrat-programme.
Comme les théâtres de Bruxelles.
Les théâtres ou les toutes grosses compagnies, enfin voilà, les compagnies plus grosses. Nous, on est quand même modestes, on n'est pas les plus petits, mais on est plutôt dans la moyenne basse. Ouais. Donc on a des missions qui se recentrent sur la création des spectacles, et donc on dialogue avec des gens qui, eux, sont chargés de la diffusion, du rapport au public. On collabore avec eux, bien entendu, hein, mais de la médiation, etc. Mais c'est pas notre mission prioritaire. Voilà, c'est ça qui fait un peu la différence entre le contrat programme et le contrat de création. Mais il y a toujours eu, et il y a toujours, dans les contrats avec la communauté française, un certain nombre de choses auxquelles on s'engage pour 5 ans. Il n'y a pas que les thématiques, il y a aussi des choses en termes d'emploi, en termes de quantité de spectacles, en termes de... Donc on a ce qu'on appelle un cahier des charges, qu'on est censé remplir, quoi. On est annuellement évalué là-dessus, donc on est redirigé s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Non, c'est pas, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi.
Donc c'est de l'argent public qui permet de payer toutes les personnes qui contribuent à la création de spectacles in fine, produits finis que le spectateur, spectatrice peut voir.
Oui.
Mais derrière ça, tout ce travail dont on a parlé avant est aussi assumé avec certains engagements au niveau de l'emploi, au niveau des thématiques, au niveau de...
Du nombre de représentations, un peu moins sur les contrats de création, mais du nombre de créations, ça c'est clair.
Du rayonnement peut-être
Ça fait partie des arguments qui peuvent être décisifs. Alors ça dépend des compagnies, de quel type de compagnie. On peut avoir envie de jouer à Rio de Janeiro, ou avoir envie de jouer à Carnion. Mm-hmm. Et c'est pas moins facile, c'est pas plus facile dans un sens que dans l'autre. Voilà. Donc, oui, on a un dialogue responsable avec notre pouvoir de tutelle sur ce qu'on décide de faire, nous, avec cet argent public. Et ils valident, évidemment, cette chose-là pendant les 5 ans.
Et donc ici, très concrètement, pendant les 5 ans, ça a commencé l'an dernier, c'est ça le...
Qu'est-ce que je dis 28, je crois, 28. Non, qu'est-ce que je dis C'est 20...
On est en 26. 25 ?
Donc c'est 25. 25, 26, 27, 28. 20, oui, c'est ça. 24, 25, 26, 27, 28, pardon.
24.
Voilà, c'est ça.
Avec un premier qui était La Mouette. Mais un premier travail sur...
Le premier, c'était Assigné à Existence.
Assigné à Existence, voilà.
Bon, l'année 24, on n'a rien fait. Et ça, c'est... Ça explique des choses. Les bilans comptables peuvent être annuels, mais nous, on travaille plutôt en saison. Une saison théâtrale, c'est septembre-juin, c'est pas janvier-décembre. Et donc quand on fait les bilans annuels, parfois il y a des choses troublantes. Si on fait la création de la saison à la fin de l'année précédente, il n'y a rien dans le bilan suivant. On fait la création dans la deuxième partie de la saison, donc 24, il n'y avait pas de création, parce qu'on a fait notre dernière création fin 23. Voilà. Puis on a recommencé milieu 25, et puis voilà, c'est ça. Le rythme annuel n'est pas systématique, hein. On n'est pas tout à fait au rythme annuel. C'est quelque chose qui est... On doit faire à peu près entre 3 et 4 créations jusqu'à la fin. Voilà.
Autour de donc, cette imbrication, ce miroir entre les dynamiques familiales et les dynamiques sociétales.
Exactement, c'est ça.
Si
oui.
Il faut...
Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses dans la famille, hein. Il y a les générations, il y a les genres... Il y a aussi l'altérité, parce que les gamins, ils tombent amoureux, ils ramènent des gens. Enfin, l'étranger arrive dans la famille. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Et les familles contemporaines sont complètement métissées. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre du reflet, parce que le métissage peut être effectivement culturel, mais il peut être social aussi. On peut avoir tout d'un coup un amoureux qui n'est pas, ou une amoureuse qui n'est pas de la même classe sociale. C'est toutes ces tensions-là. Et alors, ce qui est intéressant dans la famille, c'est qu'il y a des liens de l'ordre de l'affectif. Et donc, la division est toujours sous-tendu par des liens qui ne sont pas aussi faciles à détruire. Et ça, c'est une image démocratique assez intéressante. C'est-à-dire que ça s'engueule, en fait, mais ça reste quand même. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, oui, les différences, les altérités peuvent exister, même s'opposer, même fort, mais il y a quelque chose qui fait qu'on décide de rester. Ça, c'est l'idée démocratique, mais la réalité familiale, c'est qu'on reste parce que les liens sont profonds, innervés, souterrains, et que on ne règle pas tout avec la raison. Il y a des éléments qui sont hors raison et qui sont liés à une appréhension du monde essentielle, qui est celle notamment de l'art, c'est-à-dire la sensitivité qui va vers la sensibilité, l'émotion, la question du tragique, c'est-à-dire la maladie qui peut survenir, la mort prématurée, toutes ces choses-là. Dans les familles, ça se renoue. Et or, c'est des choses que parfois, quand on s'embarque, on va trop loin dans la théorique au niveau politique, on oublie. On oublie que les gens sont aussi potentiellement souffrants, malades, amoureux, inquiets, en deuil, dans l'angoisse pour leur avenir. Enfin, des choses qui sont, dans les familles, extrêmement perceptibles.
Voilà. Alors, je propose qu'on refasse une petite pause musicale pour introduire la création anniversaire, si je peux dire ça, qui est donc assignée à existence. Et la pause musicale, ce sera Clandestino, Manu Chao, vous pouvez en dire un mot, éventuellement ?
Bah, c'est une chanson sur toutes les limites, hein. La limite de la légalité, la nécessité de la transgression, pour que la vie politique soit vivante, et qu'elle ne soit pas la sortie du conformisme, et évidemment la question des sans-papiers, ce qui est évidemment central dans Assigner à existence. C'est pas la seule thématique, mais c'en est une fameuse. La peur de l'autre, alors qu'en fait, donc la chanson est à la fois très profonde et légère, donc j'aime beaucoup pour ça.
Mais on va l'écouter tout de suite, Manu Chao, Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer le métier de métier, c'est le métier de métier de position. Je voulais que c'est moi qui m'a dit que c'est le caravan de la Chine, c'est le chien de Mauritania. Je vais vous empêcher de gazer. Regardez, après, ouais.
Et voilà, nous écoutions Manu Chao, Clandestino, en ouverture de la papote autour de Assigné à existence, puisque nous sommes toujours sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles 92.1. Si vous nous écoutez en direct, radiocampus.be. Si vous nous écoutez un peu plus tard, il est toujours midi, mais là, passé de 46 minutes. Et on est toujours en compagnie de Frédéric Dussen, qui est donc à la tête de la compagnie L'Acteur et l'Écrit, qui fête ses 30 ans là maintenant, avec cette création Assigné à existence. Donc on a parlé de pas mal des coulisses, de ce que c'était la vie d'une compagnie finalement, l'existence, l'histoire d'une compagnie, en particulier celle de L'Acteur et l'Écrit, faite de haut, de bas, une compagnie faite de corps et de texte, hein, c'est vraiment la base de l'existence, de la genèse de cette compagnie. Et là, on va parler d'Assigné à existence qui est dans la continuité de ce contrat programme dont on parlait juste avant, qui parle des familles comme miroir de la société. Et voilà, est-ce que vous pouvez un peu parler de cette Assigné à existence ? Maintenant, je me tais.
Assigné à existence, ça, si on parle de ce que ça raconte, c'est l'explosion de la famille, c'est l'explosion d'une famille à la fois biologique, quelque part, et puis aussi une famille d'un petit groupe clandestin, voilà, d'anarchistes qui agissaient à Bruxelles, qui squattaient des bâtiments inhabités à Bruxelles, et qui a été petit à petit expulsé de ces bâtiments par d'abord les attentats de Bruxelles, et puis la crise du coronavirus, hein. Et donc, Roland Deveresse, qui a écrit ce texte à 22 ans, 23 ans à peu près, doit faire le constat d'une politique de plus en plus dure, de plus en plus sécuritaire, de l'explosion de ces lieux de vie communautaires qui sont dispersés, même parfois tragiquement, il y a eu des victimes, voilà. Et il laisse ce texte derrière lui, convaincu qu'il va en finir, en fait. Il m'a dit que oui, il était question de mort, en fait, voilà.
Pour lui-même.
Oui. Et en fait, il n'est pas mort. Parce qu'il a rejoint la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mm-hmm. où il s'est battu, et puis la ZAD d'Arlon. Et donc, ce sont des ZADistes, au final. Donc, il y a une espèce d'échappée de la ville vers la nature. Donc évidemment, toutes les thématiques aujourd'hui des crises que doit rencontrer la génération, la nôtre, quoi. Enfin, pas la nôtre, pardon, celle qui vient après nous, pardon, justement pas. Oui, et qui doit faire face à cette crise écologique, politique, sociale, un peu catastrophique.
Relativement catastrophique.
Mais voilà. Et donc, il y a une espèce de... C'est un poème qui oscille entre un enthousiasme, une envie et une sensation d'impuissance. Donc, c'est un peu les deux. Et de la même manière, la force du commun, d'une vie commune, voilà, et la difficulté de cette vie commune, voilà. Et donc, c'est pas un téléfilm, hein. Donc, ça part d'un poème, mm-hmm. dont une bonne partie est en vers. Mm-hmm. Mais ça retrace quand même ça, et on voit une espèce de... On voit trois jeunes pieds nickelés comme ça qui essayent de s'en sortir avec le monde tel qu'il est. C'est d'une force poétique, je parle de l'écriture, tout à fait stupéfiante, même si probablement Roland aujourd'hui est un autre homme, il a 30 ans, donc il regarde ça aussi comme un moment de sa vie.
Et il a écrit il y a combien de temps ?
C'était
au moment
post-Covid,
des attentats,
alors. Oui, c'est ça, donc un peu moins de 10 ans, quoi. Ouais. Les attentats, ah oui, puis Corona, puis les Landes, puis Notre-Dame-des-Landes, puis Arlon.
Mais donc c'est une écriture jeune, c'est une écriture très jeune.
Oui, il a à peu près 30 ans maintenant. Et il était très très jeune. Mais c'est une vieille âme.
Ouais.
très cultivée, très. Voilà, bon. Donc toute l'histoire de l'Occident qui mène à cette catastrophe est dans ces poèmes furieux, quoi. Il y a un long poème qui s'appelle L'Historien ivre, où il refait une espèce de vision fantastique, enfin, vous voyez, comme un ivrogne qui crierait dans un métro, de l'histoire de l'Occident, de tous les suprématismes, de toutes ces choses-là, entre autres, voilà, mais il y a aussi un grand appel aux forêts, à la nature, voilà, c'est cette tension-là entre, soi-disant, une catastrophe qui nous laisserait complètement impuissants et donc malheureux, voire dépressifs, et une volonté de sursaut, quoi.
Mmh.
Il dit ZAD partout.
Il dit ZAD partout.
Ouais.
Et il avait déjà cette envie de partir là ou...
Alors c'est curieux parce que le texte au départ évidemment est un peu prémonitoire. Parce qu'après, il a vécu des choses qu'il a dit dans le texte.
Ah oui.
Puis après, dans les éditions se sont succédées, et le texte s'est nourri des corrections qu'il a fait après, quoi. C'est aussi quelqu'un, enfin pas tout seul, hein, parce que cette petite communauté a fondé une maison d'édition, etc. C'est des gens qui sont tout à fait passionnants, et qui vivent tout le temps aux limites de la survie, quoi. C'est dans une intranquillité et une colère positive, en fait, il faut multiplier les oxymores avec permanente. Voilà, c'est... Voilà.
Et vous, comment vous avez rencontré ce texte ?
C'est assez beau parce que en fait, on a fait avec la compagnie une opération qui s'appelle Émergence, qui a censé supporter, soutenir, en partageant les infrastructures et l'expertise, des projets émergents, de porteurs de projets qui sortent des cinq écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont Mons, où je donne cours. Et une édition dans une édition d'émergence, il y a un groupe d'étudiants, d'anciens étudiants, donc de lauréats, qui a travaillé sur ce texte. C'est comme ça que je l'ai découvert. Ils ont eu une chance inouïe parce qu'il est resté un peu sur les étals des librairies, pas très longtemps. Et Baptiste, qui est un de mes étudiants, l'a trouvé. Et bon, quand j'ai vu les esquisses dans le cadre du projet émergent, j'ai dit, quelle écriture, c'est ce que j'ai lu. Et là, j'ai rencontré Roland. Et eux ont décidé de ne pas poursuivre la création jusqu'au bout. Et là, j'ai demandé de prendre le relais. Voilà. Ouais. Donc, c'est une belle aventure de transmission aussi, dans l'autre sens.
Oui, c'est chouette aussi.
Oui. Mais en l'occurrence, c'est juste que ça vienne d'eux. Et donc, l'idée du projet, c'était aussi que je sois moi, Isabelle Behrens, qui a travaillé à l'acrobatie, et Serge Mekoulibaly, qui a été un regard chorégraphique pour nous. On soit plutôt confronté à des émergents. Donc, ils sont presque tous émergents. Donc là, nos collaborateurs habituels ont pris un relatif recul, sauf Romain, qui est très jeune. Et donc, c'est un éclairagiste à qui je travaille pour la première fois. La fille qui fait la scénographie, elle sortait de la cambre et on a fait une espèce de concours. On a dit, oui, c'est elle a fait sa première scénographie professionnelle sur le spectacle. C'est la même chose pour les acteurs qui sont émergents. Enfin, maintenant, ils ont évidemment un peu grandi. Mais...
Oui, parce que la création s'est faite il y a 2 ans. Hein. Vous précisiez à Namur, au Jardin Passion.
Donc, mais à l'époque, ils étaient encore émergents. On a eu le soutien du Centre des Arséniques, qui est un soutien qui porte les lauréats des écoles. Et donc, voilà, c'est un projet de rencontre de génération. Mais bizarrement, je me sens assez proche, en fait, de cette énergie-là.
Cette colère créatrice.
Alors que c'est pas du tout ma génération. Mais moi, je suis né en 63, donc je suis dans les derniers des boomers, mais on n'en a pas profité beaucoup, parce que quand j'avais 10 ans, c'était la crise pétrolière, donc c'était déjà foutu. Et donc on est dans une position un peu étrange, entre deux, comme ça. On n'est pas des 68-ards ou des post-68-ards, on est né trop tard, j'avais 5 ans, 68, donc j'ai découvert 68 bien après ça. Donc, j'ai plutôt eu une jeunesse dans les années 80, le début du sida et tout, c'est pas forcément le fait, tous les matins. Donc, c'est intéressant, parce que, alors, le dialogue qui s'instaure, eh oui, mais alors, regarde, nous, c'est quand même ça. Enfin, voilà, bon, c'est assez formidable. L'idée aussi, c'était que ils incarnent une certaine diversité, quoi. Donc, ils viennent un peu de différents horizons.
On peut les citer, peut-être
Marie-Fane, Mohamed Rassoul Gadio, et Nicolas Arancibia, voilà. Il y en a deux qui viennent de... Donc Mohamed et Marie viennent de Mons, et Nicolas vient de l'ESAC à Liège.
Oui.
Voilà. Et j'ai rencontré Nicolas dans le cadre d'un stage de recherche qu'on a fait, avec des représentants de toutes les écoles.
Avec le texte de base, un stage de recherche du CAS, en fait.
On était là, en train de chercher à Hop-Circus.
À Hop-Circus.
Comment faire, quoi. Et il y avait aussi une représentante de l'école du cirque. Au départ, l'idée, c'était peut-être de prendre des circassiens. Mais ils ont des plannings de ministres, enfin, c'est impraticable. Donc à un moment donné, la fille, il y en avait une, et c'était super, c'est très bien passé, mais quand on a pris les agendas, il n'y avait pas moyen. Parce que c'est deux dates par-ci, et donc nous, on doit travailler longtemps, donc on ne pouvait pas. Et donc on est revenu à... Et donc au lieu de faire jouer des circassiens, on fait faire du cirque à des acteurs.
Voilà. Ah voilà, c'est ça. Parce que formellement, c'est ça que j'avais envie de dire, puisqu'on parle de mouvement, enfin de cirque et de Serge Aimé qui est donc Isabelle Bertens et Serge Aimé qui sont au cirque et à la danse. Donc c'est formellement, il y a de la poésie, du cirque et de la danse.
La poésie, du cirque, de la danse et des confrontations.
Sous chapiteau.
Et le fond de la scène, c'est la ville, c'est la vie.
C'est-à-dire que le chapiteau est ouvert.
On a enlevé le mur et on voit l'extérieur.
Et il est posé où, le chapiteau ?
Il est posé à Scarbeck, dans le près de la friche du parc de Jaffa. Donc on a à la fois les avions qui passent. Donc c'est intéressant parce que dans le texte, il y a la guerre contre la technologie qui a écrabouillé... la biodiversité, le transhumanisme, enfin toutes ces choses-là. Donc on entend les avions. Mais il y a aussi un jour, par exemple, quand on répétait, il y a un moment ils sont très calmes, ils ne bougent plus, et il y a un papillon qui est arrivé, qui est rentré sur le plateau, qui est resté un peu, puis quand ils se sont relevés, il est parti, voilà. Donc c'est une espèce de paroi poreuse entre la vie et le théâtre.
Et c'est la première ce soir ?
C'est la première
de cette recréation, ouais. Ici bruxelloise. Donc,
à 20h.
À 20h.
Et c'est gratuit, et c'est pour la fête, et voilà, tout le monde est bienvenu, toutes les générations.
Et c'est jusqu'au 13, c'est ça, hein, c'est
jusqu'au 13, alors c'est tous les jours à 20h, sauf le dimanche, où on jouera à 15h.
Et là, il y a un drink de fête, c'est
on
ça ?
On fait un drink de fête un peu, voilà.
À la suite, à la
on
fin
a fait, on a fait une brochure récapitulative des 30 ans, mais elle n'arrivera pas aujourd'hui, elle sort de presse d'urgence demain.
Demain.
Voilà.
Et donc, tout est gratuit, toutes les représentations sont gratuites.
C'est gratuit, oui.
Et je lis que pour l'entrée, c'est avenue Gustave Latinis au niveau du 152.
Exactement, il y a un bar et tout, on peut parler après.
Voilà. Et donc, j'ai une dernière petite question peut-être. Donc là, c'est la fête des 30 ans, ouais. Avec cette assignée à existence.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'acteur et l'écrit pour les 30 prochaines années ?
Un mélange de fêtes, de désordre et d'un peu d'ordre de temps en temps pour éviter l'ennui.
Okay. Voilà. L'ordre pour éviter l'ennui ?
Oui.
À l'ennui qui vient de l'extérieur ?
L'ennui qui viendrait d'un trop de désordre comme l'ennui peut venir d'un trop d'ordre.
D'accord. Mais pour se quitter, on va se quitter avec un de vos choix aussi, c'est « I Will Survive wow. ». Ça se danse, hein.
Oui, c'est la fin d'un spectacle sur un transformisme wallon, oui. Ils chantent ça à capella à la fin du spectacle. Bah oui, c'est une chanson de lutte, hein.
Voilà, bah luttons. Ce sera toujours ça que les autres n'auront pas. Merci beaucoup, Frédéric Dussen.
Merci à vous.
Et belle suite. Beau 30 ans supplémentaire avec l'acteur et l'écrit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, midi, sur le 92.1. Au revoir à tous.
Merci. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned.